Vous écoutez
RMC.
Il est minuit 7, toujours Wally La Cherchour et Florent Gautreau qui sont là et les drôles de dames qui nous rejoignent. Et, on a Johan Crochet qui est là. Johan, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Polo Breiter est là également, salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Julien, Laurence arrive dans quelques minutes. On va parler de Leverkusen bien sûr, qui a encore réussi à ne pas perdre. Mais d'abord l'Atalanta, mon cher Johan, qui a surclassé littéralement l'OM. Bon, est-ce que toi qui suis l'Atalanta toute l'année de près, est-ce que tu as été surpris?
Bon, c'était une Atalanta en mode boucherie-charcuterie ce soir. Ça a été impressionnant. C'est l'Atalanta que j'attendais un peu plus au match aller, où ça a été plus compliqué, où Marseille avait été très bon dans l'impact physique. Ils avaient su répondre vraiment sur l'impact physique là-dessus précisément. Et aussi avaient mis l'OM en danger sur les longs ballons parce que l'arrière-garde joue assez haut, joue en individuel. Et donc, quand tu mets des ballons dans le dos, ça avait été assez dangereux pour l'Atalanta à l'aller. Sauf qu'au retour, quand tu mets la machine en route, que tu mets du gros pressing, du gros duel physique, de l'impact, beaucoup de courses, et que tu as des joueurs qui sont toujours en mouvement comparé à beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille ce soir, le porteur de balle a toujours une, deux, trois solutions. Il peut se retourner, il peut jouer court, il peut jouer long, il peut jouer vertical, il peut jouer en diagonale, il peut changer de côté. Voilà, c'est parmi les meilleures partitions de l'Atalanta cette saison, où ils ont absolument rien laissé à l'adversaire. C'était impressionnant. Moi j'étais à Leverkusen et donc j'avais le match sur mon téléphone et je jonglais entre les deux. J'ai vu des équipes en mode Coupe d'Europe. J'en ai vu 3 sur 4. La seule qui y était pas, c'est l'Olympique de Marseille. Ça a été un non-match en fait. Dès le début, tu avais compris que l'Atalanta, tu comptais simplement les minutes avant que le ballon rentre. Voilà.
Exactement.
Après, t'as un truc, effectivement, tu as raison de dire, Johan, par rapport à l'aller. Moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'ils ont, entre guillemets, géré et laissé passer l'orage. Alors, ils ont vachement évoqué, d'ailleurs, l'ambiance du Vélodrome. J'ai été un peu étonné, d'ailleurs, de voir à quel point ça les avait marqués. Après, Lookman plus Kamaka, moi j'ai trouvé quand même que c'était remarquable. Lookman, tu vois, sur 30 secondes dans le match aller, j'avais fait un tweet, j'avais été bluffé. Puis finalement, il n'avait pas joué en deuxième période à l'Atalanta, donc on l'a peu vu. Lookman, ils en ont pas profité. Là, ce soir, je trouve que là où tu vois qu'il y a un coach derrière, c'est que ce gars-là, tu pourrais l'utiliser en un contre un systématiquement, tu vois, pour les provoquer. Alors qu'il est à l'intérieur des actions, il est aussi dans la remise, il est dans les 1-2, il est dans le jeu, quoi, aussi.
Donc quand mais là où ils ont été intelligents, Flo. L'été dernier, c'est en ajoutant deux pièces indispensables à cette attaque, donc Skamaka et De Ketelaere, parce que finalement, quand tu ajoutes à Skamaka, De Ketelaere, Lookman, El Bilal Touré, Miranchuk, tu as une panoplie de joueurs qui te servent selon un peu toutes les configurations des adversaires. C'est-à-dire, tu as un organisateur qui joue un petit peu avancé, très belle technique, très fin techniquement, De Ketelaere. Tu as un numéro 9 à l'ancienne qui est capable de jouer dos au but, qui a des coups de classe, je le répète à chaque fois, mais parce que ça me fait un peu marrer et j'adore un peu les comparaisons, mais il a des gestes, je parle que de gestes, pas de niveau ni de carrière, de Zlatan. La capacité à frapper arrêté, la capacité à frapper en extension, énorme, la capacité à marquer dans le jeu aérien, à être parfois de manière totalement désarticulée, à récupérer des ballons impossibles. Vous avez aussi Miranchuk qui ressemble plus au profil de De Ketelaere, mais De Ketelaere est beaucoup plus talentueux. Vous avez Lookman qui est un genre de 1 contre 1. Donc quand tu ajoutes un peu tout ça, du 1 contre 1 et de la vitesse, du numéro 9 en pivot avec des coups d'éclat, de l'organisateur à la De Ketelaere et un Miranchuk qui complète un peu tout le monde, quand tu as des adversaires, tu peux choisir. Quand tu es Gasperini, si l'adversaire il défend bas, tu choisis un type d'attaque. L'adversaire il joue très haut, tu choisis une autre type d'attaque. Et ouais, c'est un peu le luxe de l'Atalanta avec pas beaucoup d'argent, mais quand tu recrutes intelligemment et que tu mets tes joueurs au service de l'entraîneur avec des profils très précis, ça donne une sorte de, ce que disait la presse italienne, c'est une sorte de partition parfaite, tout simplement.
Et je sais que tu es d'accord avec ça, mais j'insiste sur Skamaka et sur le profil, effectivement. Ce genre de joueur-là, ce profil-là, t'en as pas tant que ça au bout du compte, là, sur la planète foot. Ce qui fait que comme en plus, il est loin d'être maladroit, qu'il est puissant, qu'il a une forme de technique à lui qui est assez impressionnante. Moi, je trouve que ce genre de joueur, parce qu'il est rare, est particulièrement intéressant. Parce que les autres types que tu as décrits sont très bons, mais tu les as ailleurs. Enfin, tu peux les voir. Moi, je trouve
ça a été un bon choix de revenir en Serie A après West Ham.
Bah, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'after, quand le transfert avait été officialisé au mois d'août, j'avais expliqué, vous verrez, Scamacca, dans un an, il est de retour parce que, le kick and rush façon David Moyes, où t'as même pas besoin d'enlever les boîtes à chaussures parce que de toute façon tout se fait avec la tête, ça va pas l'intéresser très longtemps, en fait.
Et ouais, ça va mieux.
Julien Laurent, c'est là, il l'a vu passer en Angleterre, évidemment. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Julien. Tu veux dire un truc de Scamacca?
Ouais, c'est dommage. C'était un gâchis absolu du dinosaure David Moyes de pas avoir su l'utiliser, de pas l'avoir fait jouer sur ses points forts. C'est dommage parce que je pense que le football anglais aurait très bien pu lui convenir aussi. Je sais pas si après lui avait vraiment aussi envie à ce moment-là de sa carrière de tenter cette expérience-là, ou si on l'a un petit peu poussé à rejoindre la première ligue, vu le montant du transfert.
C'est bien l'option 2, Julien.
Ouais. Mais voilà, c'est aussi dommage de la part de David Moyes de pas avoir tout fait pour qu'il s'adapte et qu'il s'intègre bien. Et c'est vraiment dommage, quoi. Mais ça m'étonne pas non plus de la part de David Moyes.
Et pourquoi, c'est sur le chat, c'est une question que je me suis posée aussi, pourquoi on le sort aussitôt pour la gestion globale de la saison?
Alors là, j'ai pas vu Gasperini j'ai lu la transcription de la conf de Gasperini, mais j'ai pas l'impression que la question lui ait été posée. De toute façon, on lui oppose pas généralement quand il gagne, mais après le match aller, il avait expliqué, moi j'avais trouvé assez intéressant, Scamacca, qui développe en plus un côté un peu, comment dire, un peu lutteur. Le duel qu'il avait fait avec Balerdi lors du match aller était quand même très très particulier, et s'il arrive à ajouter ça à sa panoplie en gardant la tête froide, parce que ça a toujours été un peu le problème de Scamacca, ça lui sera très utile dans sa carrière. Et il avait expliqué, Gasperini, qu'il s'attendait à plus de la part de Scamacca. Mais Gasperini, c'est un peu ça, c'est tout le temps le bâton et la carotte. Même quand toi, il te donne l'impression que le joueur fait un bon match, bah lui, il va te dire, bah moi j'attendais plus.
Moi, je pensais que j'attendais plus. C'était pas de la gestion par rapport au match d'après, tout ça, non.
Ce soir, je sais pas, on verra. Ouais. Mais effectivement, il y a un match très important contre la Roma dimanche soir. Et puis après, il y a quand même deux finales très excitantes à jouer, en plus de la cinquième place à conserver en Serie A. Donc la fin de saison de l'Atalanta, quand vous êtes supporter de l'Atalanta, qui a 8 ans, vous jouiez pour ne pas descendre en Serie B. Vous avez un mois de mai particulièrement excitant quand même.
Bon, moi un jour j'aimerais inviter un psychologue dans l'after qui nous explique la motivation des personnes qui ont plus de 50 tatouages sur le corps. J'ai un truc qui m'échappe. Bah bon, après, chacun son délire.
Les libertés individuelles, Gilbert.
Ah, peut-être. Oui,
c'est
tout à
la
fait.
Mode, c'est ton idéologie, je te rappelle.
Tout à fait. Ah bon, j'ai une idéologie, moi?
Oui.
Ah bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il a écrit, parce que j'aime lire, en fait. J'ai pas eu le temps. Enfin,
là, il y avait de la lecture.
La lecture, c'est pour sa copine, en fait, je pense. À la plage, c'est de... Qu'est-ce que tu fais? T'as des bouquins? Non, j'ai Scamacca.
Voilà. Tu peux te tourner, s'il te plaît.
C'est dommage à Bernard Pivot, en fait.
Le Bayer Leverkusen. Donc, oui, Johan était au match, en plus, ce soir.
Ouais.
Donc, c'est intéressant de vous avoir tous les deux. Polo, t'as cru que la première défaite allait arriver, là, ou tu, à 2-0, tu t'es dit, bah, tranquille, on sait que ça va finir à 2-2?
J'ai vu un scénario catastrophe, évidemment, d'autant plus qu'il n'y a quand même qu'une seule équipe vraiment sur le terrain, tellement la qualité technique de Leverkusen est supérieure. Sauf qu'il faut savoir mettre un ballon au fond des filets. Ce soir, Leverkusen donne le bâton pour se faire battre avec deux pénalties qu'on peut critiquer, d'ailleurs, au passage, les décisions arbitrales. Je compare, par exemple, ce genre de décision arbitrale avec ce que je vois dans la surface du Real Madrid à chaque fois qu'il y a un corner. Par exemple, ça, on siffle pas là-bas, mais là, on siffle des choses qui me semblent assez ridicules. Donc, il n'y a jamais homogénéité des décisions arbitrales. Ça devient vraiment pénible. La deuxième chose qui me semble importante, c'est cette incapacité depuis plusieurs matchs à tuer des rencontres qui sont assez faciles. C'est compliqué. Il y a la composition, une fois de plus, de Alonso. Avant la rencontre, il explique différentes choses. Il a besoin de flexibilité. Il veut essayer des choses, etc. J'avais presque envie de lui dire, mais attends, t'es en demi-finale d'une Coupe d'Europe. C'est important d'être en finale. Et puis, comme il donne pas vraiment d'informations pourquoi Wirtz n'est pas titulaire, il le donne après la rencontre. Il dit non, mais il a toujours un coup à la cuisse, donc je ne le mets pas titulaire. Mais ça n'explique pas pourquoi il ne met pas un véritable numéro 9. Pourquoi Boniface ne joue quasiment plus, ou joue 10 minutes, 15 minutes de temps en temps en Bundesliga. Pourquoi il attend pour faire entrer Patrick Schick, etc. Donc ce soir, Leverkusen, une fois de plus, c'est un scénario extraordinaire. Donc pour l'expliquer, je sais que ça plaît à beaucoup de personnes, mais moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme si ceux qui pensent que l'univers Marvel c'est du cinéma, quoi. Tout ça, moi ce qui m'intéresse, c'est les performances avant, et qu'ils sont forcés à chaque fois de en changeant des joueurs, etc., à à chaque fois ça fonctionne, etc. La non-défaite, si tu veux, ne m'intéresse pas. Moi, à 2-1, je suis content. À 2-1, t'es en finale. La série de non-défaites, c'est les trucs.
Tout le monde regarde quand même ça, malgré tout.
Oui, non, mais moi, je suis pas gala. Moi, je m'en fous complètement de cette série.
Par esprit de contradiction, qui est ton idéologie.
Mais c'est pas un esprit de comparaison, j'en ai rien à faire de cette série.
C'est pas gala, Polo, c'est quand même l'histoire, non?
Mais c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que tu gagnes le titre de Bundesliga. Que derrière, t'enchaînes 5 défaites, on en a rien à faire.
Non, mais c'est la
série. Ça, c'est vraiment les trucs. C'est vraiment les trucs inintéressants pour moi. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas.
C'est s'y intéresse quand même. Je te le dis.
Moi,
je
suis assez d'accord. C'est la société du 21e siècle.
Polo, je suis assez d'accord.
Mais si, c'est comme ça.
Je me range du côté de Polo parce que moi.
C'est évident. Il n'y a même pas à discuter.
À 2-0.
Pas discuter.
Non, mais attends, à 2-1, je trouvais qu'effectivement, la saison de Leverkusen restait incroyable. Mais surtout, je te trouve sévère sur un truc. Que Polo là quand même. Alors ok, ils ont pas marqué, mais t'as vu les stats et les arrêts de Svilar ce soir. Il a fait 12 arrêts, t'as 28 occasions, 32 tirs, 13 tirs cadrés. C'est un miracle absolu ce qui est arrivé à Rome en fait. Hein.
Mais je sais, mais c'est le problème d'efficacité. Donc,
oui,
moi ce qui me.
Je suis d'accord, mais moi ce que je veux dire, je vais même te dire, même s'il y a eu 2-0 et prolongue, j'aurais vu encore un match incroyable de Leverkusen sauvé, la Roma sauvée par son gardien. Le foot étant
avec
le foot,
Tano du ciel. Hein.
Franchement, oui, d'accord, c'est bien d'être exigeant. T'as sans doute raison sur la compo. Moi j'ai encore vu un match incroyable. Incroyable de Leverkusen dans la moitié de terrain de Rome.
Mais bah parce qu'ils sont deux, il y a deux classes c'est d'écart entre les deux équipes. Johan, sauf qu'ils se mettent en difficulté. Donc voilà, c'est aussi simple que ça.
Johan, tu confirmes tout ce que dit Polo vu du stade?
Ouais, moi j'ai adoré le match. J'ai tout aimé en fait, même ce qu'a fait la Roma. Alors évidemment, il faut s'appuyer sur un grand gardien. Ils ont le droit d'avoir un grand gardien aussi. J'ai assez pesté après Rui Patricio qui servait à rien, qui était juste le balai dans le placard pour aller chercher le ballon au fond du but. Là, maintenant, la très grosse décision de De Rossi quand il arrivait, c'est de mettre Milos Velar dans les cages et on voit une énorme différence tout simplement. Donc évidemment que Leverkusen est largement au-dessus techniquement. À la télé, on s'en rend compte, mais vraiment au stade, la qualité technique et le jeu en une touche de balle, mais c'est surtout la vitesse d'exécution des joueurs, c'est vraiment impressionnant. Et ils ont étouffé la Roma pendant une bonne partie de la première mi-temps. Et la Roma, malgré tout, a réussi à se créer pas mal d'opportunités, je trouve, au-delà même des pénalties. Il y a Lukaku qui en a une, Pellegrini qui en a une, Azmoun qui joue mal le coup à un autre moment. Je trouve qu'il y a eu des choses intéressantes. Et je discutais à la fin du match avec Vratislav Gresko, qui est un ancien joueur de Leverkusen et qui a joué en Italie d'ailleurs aussi à l'Inter et à Parme. Et il me disait qu'il avait vu tous les matchs de Leverkusen cette saison, qu'il en avait vu plusieurs au stade, et qu'il me disait une équipe aussi bien préparée pour jouer Leverkusen à Leverkusen cette saison, hormis Stuttgart, j'en ai pas vu d'autres. Donc, ça montre aussi le travail qu'était capable de faire De Rossi avec des choix importants. Dybala, qui était pas à 100%, est resté sur le banc. On parlait d'une attaque Abraham-Lukaku. Finalement, Abraham était sur le banc. Celik était sur le banc. Il a mis Angelinho, troisième défenseur central, axe gauche, alors que c'est un latéral gauche. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Il a pas remis Smalling parce que l'attaque légère de Leverkusen lui avait posé beaucoup de problèmes quand Smalling est intéressant, quand il y a un vrai numéro 9 au duel, au contact physique. Donc, j'ai tout aimé et j'ai aimé aussi le scénario parce que c'est un scénario dingue. J'ai aimé le stress des supporters de Leverkusen quand il y avait 2-0. J'ai aimé l'euphorie des joueurs de la Roma quand il y avait 2-0 et des supporters de la Roma. J'ai aimé la joie des supporters de Leverkusen, la détresse des supporters de la Roma. Bref, c'était un super match de Coupe d'Europe.
Bah, c'était clairement le match du soir. Franchement, à voir, c'était incroyable. Et c'est vrai que le Bayer Leverkusen, de ce qu'on voit, enfin, tu vois, là, même par rapport à l'Atalanta, là,
la finale va être sympa.
La finale déjà va être sympa. Mais c'est vrai que Leverkusen est incroyable.
Je rappelle que Leverkusen est encore aussi en finale de la Coupe d'Allemagne. Hein.
Comme l'Atalanta est en finale de Coupe d'Italie.
Ouais, exactement. Julien, il n'y aura pas de club anglais dans les finales de Coupe d'Europe cette année.
Aston Villa ne gagnera pas la...
Je ne sais pas de quand ça date.
Emery ne gagnera pas une Coupe d'Europe.
Ouais, une autre.
Ouais. Je sais pas, depuis quand t'as pas eu ça? Au moins un club anglais présent, tu vois, sur les trois finales.
Ouais, j'ai pas regardé, c'est vrai que j'ai pas regardé. Ouais, ça doit dater un petit peu. On avait parlé un petit peu après l'élimination de City par le Real, déjà en quart de finale, sur le face.
L'année Covid, il y en a pas, je crois, Julien.
En 2020.
2020,
c'est
peut-être.
Bayern, PSG et Séville Inter.
C'est la dernière fois qu'il n'y avait pas eu de club anglais en demi-finale de Ligue des Champions et je pense effectivement qu'il n'y a pas non plus dans les.
Il n'y avait pas encore la Conference League à l'époque.
Il n'y avait pas la conférence, ouais.
Non. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que c'est conjoncturel, est-ce que c'est structurel? On en avait parlé un petit peu. C'est dommage que Fred Hermel soit pas là.
Aston Villa qui se fait quand même sortir par le quatrième du championnat de Grèce. Parce qu'Olympiakos, bon, c'est un club évidemment un peu les mythiques grecs. Bon, enfin, ils font pas une super saison non plus. Et, bah,
non,
et,
c'est vrai. Alors, Ayoub El Kabi qui marche sur l'eau, c'est assez incroyable à voir.
Il a fait une double confrontation, Kabi Nueve, là.
Extraordinaire. Mais c'était Ronaldo, le Brésilien. Incroyable.
Il fait une très grande conférence ligue.
Ah, il fait une très belle saison, quoi qu'il arrive. Je crois qu'il a 32 buts déjà cette saison. À 30 ans en plus, que tu arrives si tard dans ta carrière à ce genre de, d'atteindre ce genre de niveau-là. Hallucinant. La finale, en plus, c'est à Athènes, d'ailleurs, de la conférence ligue contre la Fiorentina.
C'est pas à Tirana?
Non, c'est à Athènes.
C'est à Athènes, donc à domicile, domicile en plus. Vraiment chapeau à eux, mais ils ont été super efficaces, super cliniques à l'aller notamment, où ils marquent 4 buts sur 5 tirs cadrés, même là au retour, hein, parce qu'ils prennent quand même parfois un peu le bouillon.
Et jamais pourtant, un club grec n'a gagné la Coupe d'Europe, hein, je dis pas de bêtises. Panathinaikos avait été en finale une année.
En finale, Et là, c'est la première finale pour l'Olympiakos.
Ouais, je crois que jamais ils en ont gagné.
L'Olympiakos, Carambeu est conseiller du président et José Anigo, directeur du centre de formation.
Tout à fait, ils sont là. D'ailleurs, Carambeu est là à tous les matchs à l'extérieur. Ouais. À domicile. Ouais, il était à Birmingham pour le match aller aussi.
Là, en ce moment, ça fonctionne, mais ça n'a pas toujours fonctionné.
Parce que
l'Olympiakos, du début de saison, qui rencontre Fribourg, bonjour. Quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est étonnant.
C'est un club étonnant.
Ils ont le match contre le Maccabi, incroyable, où ils perdent chez eux 4-1. Ils sont
quatrième du championnat.
6-1 à l'extérieur. Mais ce qui est marrant, c'est que Marinakis, le propriétaire, donc le milliardaire grec, qui est aussi propriétaire de Nottingham Forest, ça l'a bien amusé, effectivement, de sortir un club anglais maintenant. Lui qui se fait démonter chaque semaine en Angleterre, notamment parce qu'il fait aussi n'importe quoi avec son club parfois. Mais voilà, c'était quand même un peu le pied de nez de Marinakis qui sort Aston Villa et le dernier club de Première Ligue encore en Coupe d'Europe.